Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Abdourahmane Dia à la présentation de cette édition du Monde aujourd'hui. Nous sommes mardi 27 décembre 2022. Voici les titres. Ethiopian Airlines reprend demain ses vols commerciaux vers le Tigré après une interruption de 18 mois alors qu'une délégation gouvernementale est arrivée sur place. En Angola, la Cour suprême ordonne le gel de comptes bancaires et autres biens d'Isabel dos Santos d'une valeur d'$1 milliard. Le navire humanitaire, l'Océan Viking, a secouru plus d'une centaine de personnes en mer Méditerranée. Et puis le froid extrême et la tempête hivernale qui se sont abattus sur l'est et le mid-ouest des États-Unis ont fait une cinquantaine de morts. Dans une dizaine de minutes, l'actualité économique et en sport, Bagassi Koura sera là pour nous dire quelle star néerlandaise rejoindra Liverpool. Mais tout de suite, le journal. En République démocratique du Congo, 8 militaires et un civil ont été condamnés à mort en appel par la justice militaire dans 2 jugements distincts rendus en Ituri et dans le nord-est du pays, dans une première affaire portant sur le meurtre crapuleux de 2 ressortissants chinois en mars. La haute cour militaire a condamné 5 militaires, dont 2 colonels et un civil, à la peine de mort. Dans un autre jugement, la plus haute juridiction militaire de la RDC a condamné à la peine capitale pour détournement des munitions de guerre destinées aux opérations militaires le lieutenant-colonel Marcel Kaligamire et 2 militaires congolais. Ethiopian Airlines va reprendre demain mercredi ses vols commerciaux vers le Tigré après une interruption de 18 mois due au conflit dans cette région du nord de l'Éthiopie. Le point avec Rosine Munezero.
L'annonce de la compagnie intervient au lendemain de la visite d'une délégation du gouvernement éthiopien à Mekele, la capitale du Tigré, pour une première visite officielle depuis plus de 2 ans. C'est une étape majeure dans le processus de paix lancé en novembre. La plus grande compagnie aérienne d'Afrique a indiqué avoir prévu des vols quotidiens vers le Tigré et promet d'augmenter la fréquence selon la demande. Parmi la délégation qui a visité hier Mekele, il y avait le PDG d'Ethiopian Airlines et des acteurs importants pour la restauration de services de base au Tigré. Gouvernement et rebelles tigréens ont signé le 2 novembre un accord mettant fin à la guerre qui a ravagé pendant 2 ans le nord de l'Éthiopie. L'accord prévoit le désarmement des rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des routes et des communications avec cette région coupée du monde depuis 2 ans.
Nouvelle action judiciaire en Angola contre Isabel dos Santos. La chambre criminelle de la Cour suprême a ordonné la saisie de ses comptes bancaires et de ses parts dans plusieurs compagnies qu'elle contrôle, le tout d'une valeur d'$1 milliard. Les précisions de Timothée Donangmaï.
L'arrêt de la Cour suprême angolaise date du 19 décembre, mais vient d'être rendu public. Plusieurs des compagnies visées sont basées à l'étranger, y compris au Mozambique, au Cap-Vert, ainsi qu'à Sao Tomé et Principe. Invoquant l'article 31 de la Convention de l'ONU contre la corruption, le ministère public a requis le gel de 70% des actions de la compagnie de télécommunications M-Star, 100% de celles de la compagnie Unitel Plus, basée au Cap-Vert, et d'Unitel STP, basée à Sao Tomé et Principe. Des compagnies dont Isabel dos Santos est la bénéficiaire effective selon la Cour suprême angolaise. Il en va de même pour d'autres compagnies, notamment Enval Vidro Unitel et International Holding. Le document de 28 pages explique en détail comment des fonds de la Sonangol, la compagnie pétrolière d'État, ont été utilisés pour financer les entreprises contrôlées par Isabel dos Santos sans que la Sonangol reçoive des dividendes en retour. En plus d'$1 milliard de dommages, d'autres préjudices, se chiffrant à plus d'$1 136 millions, ont été établis dans d'autres affaires criminelles. On ignore pour l'heure comment les autorités angolaises comptent s'y prendre pour obtenir le gel des parts des compagnies basées à l'étranger.
L'océan Viking, un navire humanitaire de SOS Méditerranée, a secouru la nuit dernière 113 personnes en mer Méditerranée. Il s'agit de sa première opération depuis son accostage en France en novembre au terme d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Rome. Le point avec John Linden.
Parmi les personnes secourues figurent 23 femmes, dont certaines sont enceintes, une trentaine de mineurs non accompagnés et 3 bébés dont le plus jeune n'a que 3 semaines, a indiqué SOS Méditerranée. Les migrants se trouvaient sur une embarcation pneumatique noire surchargée dans l'obscurité totale, toujours selon l'ONG. Ils ont été pris en charge à bord du navire par des membres de l'organisation ainsi que la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Pour l'heure, l'Océan Viking continue de patrouiller et il est encore trop tôt pour savoir où il pourra débarquer les personnes secourues, a indiqué Meryl Sotti, porte-parole de cette organisation. Mi-novembre, ce navire avait débarqué à Toulon, dans le sud-est de la France, avec 230 migrants secourus entre la Libye et l'Italie à l'issue de 3 semaines d'errance à la recherche d'une terre d'accueil. Le gouvernement français avait accepté d'accueillir à titre exceptionnel le bateau après le refus de l'Italie, occasionnant des tensions diplomatiques entre les deux pays.
La police espagnole annonce avoir saisi 4,4 tonnes de haschich, apparemment destinées à l'Amérique latine, à bord d'un bateau qui naviguait au large des côtes sud du pays. Les 2 Britanniques à bord ont été arrêtés. Le bateau a bien récupéré sa cargaison sur la côte ouest du Maroc, mais a ensuite dû rebrousser chemin vers l'Espagne en raison du mauvais temps dans le détroit de Gibraltar. En Tunisie, des ONG ont accusé ce mardi l'autorité électorale de mettre en péril la liberté d'expression après qu'elle a saisi la justice contre des médias et des comptes sur les réseaux sociaux pour de supposées infractions en lien avec le référendum du mois de juillet.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le froid extrême qui s'est abattu depuis plusieurs jours sur les États-Unis a commencé à s'atténuer ce mardi sur l'Est et le Midwest du pays après ce qui est surnommé le blizzard du siècle et qui a fait une cinquantaine de morts. Le point avec Idriss Fall.
Il est trop tôt pour dire que c'est terminé, a mis en garde Katie Hochul, la gouverneure de l'État de New York. C'est clairement le blizzard du siècle, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse depuis la ville de Buffalo, où elle est née. Les températures devaient s'atténuer selon le service météo américain qui met en garde contre des conditions de circulation localement dangereuses. Depuis mercredi soir, les États-Unis sont frappés par une tempête hivernale d'une rare intensité, avec des vents glacés qui ont provoqué d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands Lacs. Des dizaines de millions d'Américains ont vu leur week-end de Noël bouleversé par des coupures massives de courant, des routes impraticables et des milliers de vols annulés, provoquant les chaos dans les aéroports. D'ailleurs, l'aéroport international de Buffalo est toujours fermé et l'interdiction de circuler reste en vigueur dans la ville et une grande partie de la région.
La Russie va interdire à partir du 1er février 2023 la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe fixé début décembre à 60 dollars par baril par l'Union européenne, le G7 et l'Australie. Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret dans ce sens mardi. Soulagement en Chine après l'annonce de la suspension de la quarantaine obligatoire des passagers en provenance de l'étranger à partir du 8 janvier. Beaucoup de Chinois se réjouissent ce mardi de cette mesure et s'empressent de réserver des vols à l'étranger après 3 ans d'isolement pour cause de Covid. Cette décision intervient au moment où le pays le plus peuplé du monde connaît une flambée de contamination depuis l'abandon de l'essentiel de ses restrictions sanitaires début décembre. Le haut commissaire des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, demande aux talibans afghans de lever les restrictions inimaginables, selon lui, imposées aux femmes. Dans un communiqué, il met en garde les talibans. Aucun pays ne peut se développer, voire survivre socialement et économiquement si la moitié de sa population est exclue, a-t-il écrit ce mardi. Enfin, le président iranien Ibrahim Raisi ne veut aucune pitié envers ceux qui affichent leur hostilité à l'égard de la République islamique dans les manifestations déclenchées par la mort en détention de Mahsa Amini. Ces défilés, donc, les hypocrites, les monarchistes, les contre-révolutionnaires, donc, qui ont lésé la révolution, ont rejoint les manifestations, a-t-il déclaré aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. De suite, la Minute Éco présentée ce soir par Timothée Delangbaye.
L'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, principal syndicat en Tunisie, menace d'occuper la rue pour exprimer son opposition aux mesures d'austérité prévues dans le budget 2023. Avec plus d'un million de membres, le principal syndicat tunisien a démontré par le passé sa capacité de paralyser l'économie nationale par des grèves. Le budget 2023 de la Tunisie vise à ramener le déficit budgétaire à 5,2% l'année prochaine contre 7,7% cette année. Plusieurs professions verront leurs impôts augmenter de 13 à 19%, notamment les avocats, les ingénieurs et les comptables. 2023 sera une année très difficile en Tunisie, avec une réduction de 26,4% des subventions à la consommation, a fait savoir le ministre de l'économie, Samir Saïd. Flambée du prix de l'or en Égypte, où les investisseurs nerveux se réfugient dans le métal précieux pour se protéger de l'impact de la baisse de la monnaie nationale. Selon la Fédération égyptienne des Chambre de commerce, le gramme d'or de 21 carats dépasse les 1800 livres sur le marché local, soit un peu plus de 72 dollars ce mois-ci, alors que les cours sur les marchés internationaux se situent entre 50 et 51 dollars. En dépit de deux dévaluations majeures cette année, l'Égypte fait face à une pénurie de devises. Certains commerçants égyptiens achètent et exportent des pièces d'or pour obtenir des devises et financer leurs importations.
Et c'est l'heure des sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
En foot, l'attaquant néerlandais Cody Gakpo, transféré à Liverpool.
Oui, le PSV Eindhoven a annoncé hier soir le transfert à Liverpool de sa pépite. L'attaquant donc néerlandais Cody Gakpo, qui s'est illustré lors du dernier mondial, attaquant de 23 ans, part immédiatement pour l'Angleterre où il sera soumis aux formalités nécessaires pour la finalisation du transfert, a déclaré le club néerlandais dans un communiqué. Le montant de la transaction n'a pas été rendu public.
Mondial, les Argentins se précipitent sur le nouveau maillot 3 étoiles de l'Albicéleste.
Oui, rué donc sans précédent des Argentins vers le nouveau maillot de leur sélection nationale, frappé de sa troisième étoile après le trophée remporté au Qatar. Une aubaine pour Adidas, l'équipementier des tout nouveaux champions du monde. Le site mis en place pour les commandes en ligne a été rapidement saturé au point où il n'était plus possible de s'y inscrire. Adidas a fait savoir que le premier lot de maillots mis en vente a été épuisé, assurant que le stock sera réapprovisionné dans les prochaines semaines. Une information qui n'est pas du tout du goût des fans argentins impatients d'arborer le nouveau maillot de leur sélection nationale. Adidas n'a pas précisé le nombre de maillots vendus ce lundi.
Les autorités iraniennes créent des ennuis à la famille d'un ancien capitaine de l'équipe nationale.
Oui, ces autorités ont donc fait atterrir un avion de ligne pour empêcher l'épouse et la fille d'Ali Daï. Il est ancien capitaine de l'équipe nationale, empêcher donc l'avion de quitter le pays. L'appareil de la compagnie Mahan Air, qui était en route pour Dubaï, a été forcé de se poser sur l'île iranienne de Kish, dans le golfe Persique. Ali Daï s'est mis à dos les autorités iraniennes en soutenant les manifestations anti-gouvernementales. Ces manifestations qui ont fermé une bijouterie et un restaurant lui appartenant.
Au monde NBA, le championnat de basket nord-américain, les Nets qui s'imposent chez les Cavaliers et signent un 9e succès consécutif.
Oui, et Kevin Durant et Kyrie Irving ont marqué 32 points chacun et les Brooklyn Nets ont porté à 9 leur série de victoires en NBA grâce à une victoire ce lundi chez les Cleveland Cavaliers, 125 à 117.
Puis voilà, donc merci beaucoup Bagassi Koura. On vous retrouvera certainement pour un suivi de l'actualité sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Nigeria, l'année 2022 a été marquée par l'insécurité qui reste une préoccupation majeure des autorités fédérales. Dans ce reportage, notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, revient sur les événements qui ont marqué l'actualité durant l'année écoulée.
Des multiples menaces de sécurité ont persisté au cours de l'année 2022 au Nigeria, avec une augmentation globale de la violence dans tout le pays. La violence politique par les milices communales et ethniques ciblant les civils a constitué plus de 60% de leur activité. Kabiru Adamu est expert en sécurité.
Ils doivent utiliser des stratégies de risque de gestion et d'atténuation. Lorsque vous identifiez un risque, ce que vous devez faire, c'est de chercher à l'atténuer. Mais j'ai une préoccupation au niveau de leur coordination. Dans certains cas, ils identifient des risques, mais ils ne prennent pas les dispositions pour gérer ces risques.
La grève dans le secteur de l'éducation a aussi marqué les esprits au Nigeria en 2022. Le 14 février 2022, la puissante centrale syndicale des enseignants des universités publiques lance un mouvement de grève illimité, entraînant une suspension des activités académiques dans les universités fédérales et d'État à travers le pays pendant 9 mois. Réaction de Farouk Bibi Farouk, professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja.
The problem lies in one and one issue. Funding of public.
Le problème se situe à un seul niveau, le manque de financement des universités publiques. Et nous avons un gouvernement qui estime qu'il ne doit pas financer l'éducation publique. C'est cela le problème.
La nouvelle loi électorale de 2022, adoptée et signée par le président, a introduit de nombreux changements qui auront un impact considérable sur le processus électoral au Nigeria. Cette loi devrait grandement contribuer à réduire la manipulation du processus électoral ou le tricage des élections au Nigeria, selon les experts. Djegede Jeremia se félicite de la mise en place de la transmission des résultats par voie électronique.
Si le résultat des élections qui viennent directement des bureaux de vote sont transmis électroniquement au serveur de la CENI, je suis certain que cela va diminuer la manipulation des élections.
L'année 2022 qui se termine est considérée comme une année préparatoire pour les élections générales de 2023, avec notamment l'organisation des primaires des partis politiques pour la sélection des candidats. Yabagi Youssouf Sani est candidat de l'ADP à la présidentielle de 2023.
There's an urgent need to rescue this country.
Il est urgent de sauver ce pays d'un effondrement imminent. Vous pouvez considérer cela de n'importe quelle perspective que vous voulez le faire. Le pays est presque à genoux. Un pays qui ne peut pas protéger et nourrir ses populations est un État failli.
Le Nigeria a connu de fortes pluies et des inondations dévastatrices qui ont causé des pertes de vies humaines, des déplacements massifs de populations et des destructions massives de maisons, de fermes et d'infrastructures. Depuis juillet, plus de 3 millions de personnes ont été touchées dans 34 États par les pires inondations que le pays ait connues depuis plus d'une décennie. Au moins 603 personnes sont mortes et plus de 2400 ont été blessées. Selon l'Agence nationale de la gestion des catastrophes naturelles, NEMA, plus d'1,4 million de personnes ont été déplacées en raison des inondations. Félicité Oudiozo est assistante d'une ONG locale.
Nous demandons au gouvernement des États et au fédéral ainsi que les autres organisations humanitaires de venir à notre secours pour éviter une crise. En plus, pour que ces gens ne perdent pas espoir.
Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Au Bénin, la revalorisation salariale est effective. Le gouvernement et les syndicats sont parvenus à un accord, même si les travailleurs attendent davantage de l'État en raison de la situation économique qui évolue de mal en pis. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Comme promis, le gouvernement s'est employé à définir et à stabiliser les options qu'il a présentées aux partenaires sociaux le mardi 6 décembre 2022 aux fins de recueillir leurs avis et suggestions. Cela se traduit par un relèvement indiciaire uniforme pour tous et des sursalaires différenciés, privilégiant ainsi les plus modestes, dira le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rombedji.
Le conducteur de véhicules administratifs qui commence sa carrière connaîtra une hausse de 66% de son salaire. Selon qu'il est en début, milieu ou fin de carrière, l'agent d'entretien des services de santé connaîtra une revalorisation allant de 56 à 32% du revenu actuel net.
Pour Noël Chadaré de la COSI Bénin et Kassamampo de la CSTB, la revalorisation salariale était indispensable.
Revaloriser, c'est donner de la valeur à nouveau à quelque chose qui a perdu sa valeur. Et donc les salaires s'entendent. Nos salaires ont perdu leur valeur. C'est devenu des salaires. Des salaires. Et donc, il faut leur donner de la valeur pour que ça devienne des salaires.
Les travailleurs attendent impatiemment une revalorisation des salaires et du secteur public et du secteur privé pour que les gens puissent vivre de leur salaire. C'est pas un truc symbolique. Il faut trouver une forme pour permettre aux travailleurs qui gagnent, surtout aux gagnes petits, de sentir une revalorisation, de sentir un soulagement. Le panier de la ménagère est vide et moins on gagne, plus on souffre.
Les travailleurs indépendants se disent lésés par cette mesure qui ne prend en compte que les travailleurs des secteurs publics et privés.
Qu'est-ce que le gouvernement a pu faire pour nous? Oui, les infrastructures, c'est-à-dire les voies, les choses là, oui. Mais il a compris aussi que même quand on fait les voies et que le Béninois ne mange pas, il ne peut pas ovationner. Je ne dirai pas cette. C'est quand je serai malade que je vais passer sur les voies. Il faut que je sois en bonne santé et que je mange bien. Le palier de la ménagère, qu'est-ce que ça en coûte? Le social dont le gouvernement a crié, lequel est revenu sur moi, ma corporation, les conducteurs de taxi. Parce que quand on fait une vue d'ensemble, quand tu prends cette vue d'ensemble, c'est-à-dire la photo qu'on fait ensemble, quand on prend, on regarde, on voit là où on est. Donc les hommes ne se sont pas encore retrouvés de trop.
Si les travailleurs du secteur public ont déjà vu sur leur salaire l'augmentation tant annoncée, ceux du privé restent encore dans l'attente. Beaucoup pensent que le gouvernement n'a aucun moyen de contrôler l'effectivité de cette mesure au niveau du privé.
Je crois qu'il faut proposer aux employeurs des solutions de facilité qui puissent leur permettre de voir par quel mécanisme ils vont augmenter les salaires. Si rien ne leur est proposé en retour, il leur sera difficile d'augmenter les salaires ex nihilo. Ça veut dire qu'ils augmentent les charges. Si en retour, ils ne peuvent pas avoir plus de revenus.
Je ne sais pas par quelle alchimie le gouvernement peut amener au moins la majorité des patrons à ne serait-ce qu'augmenter un tout petit peu. On ne dit pas de respecter les 52 000 forcément, mais de se rapprocher un peu de ce seuil, de ce montant pour que tout au moins les travailleurs du secteur privé aussi, puisqu'ils vont sur le même marché, en bénéficient également.
Également objet d'accord avec les syndicats ainsi que le patronat du secteur privé, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG va passer à 52 000 francs CFA pour compter du 1er janvier 2023 contre 40 000 francs CFA actuellement, soit une hausse de 30 %. Le gouvernement exhorte les employeurs privés à se pencher favorablement sur la question de la revalorisation des salaires de leurs employés. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, un jeune entrepreneur a créé un système de paiement électronique qui fonctionne grâce à une application et une carte magnétique. Cette innovation permet aux gens de sécuriser leur argent et de donner un goût au paiement électronique dans un pays où la majorité des gens n'ont pas de compte en banque. Davantage avec Zanem Netizaidi.
Presque chaque jour, Faisal, jeune entrepreneur congolais, arpente les rues et le lieu public de Goma comme le marché, dans le but de sensibiliser les gens à adhérer à une technologie moins connue, mais qui est au cœur de son innovation. Ce jeune homme a créé Tap & Pay, un système de paiement électronique qui permet d'acheter et de vendre des produits, de déposer et de retirer de l'argent. Tout cela fonctionne grâce à une carte magnétique et une application mobile. L'initiateur pense que cela contribuera à l'amélioration du système de paiement électronique dans son pays.
On s'était rendu compte qu'en RDC, il y a l'insuffisance des services mobile banking
Donc là, nous voyons la pénétration des services mobile banking qui est actuellement à 6%, laissant plus de 60 millions de Congolais en dehors des circuits bancaires classiques. Et à part le mobile banking, nous avons le mobile money dans les zones enclavées qui sont actuellement à 32%. Et là, nous voyons 78% de manque de mobile money. Et nous, avec notre business model, on s'est dit de couvrir les gaps avec un système de paiement qui va s'adapter juste à la basse classe de la population.
À Goma, il compte déjà plus de 6000 utilisateurs pour ce système de paiement, comme ici dans ses restaurants situés au centre-ville. Ses gérants s'est déjà fait voler une partie de sa recette alors qu'il voulait rentrer chez lui. Il affirme que cette innovation peut désormais lui permettre de sécuriser son argent.
Les grands avantages de Tap and Pay est la sécurité de l'argent. On ne peut plus se mettre en danger en ayant de l'argent en espèces dans nos poches. Depuis que je l'utilise, je sens que mon argent est en sécurité. C'est donc bénéfique pour nous, commerçants, et même pour les clients.
Parmi les utilisateurs, il y a aussi des motocyclistes qui ont pris goût à l'innovation. Ils peuvent acheter de l'essence dans les stations partenaires de Tap and Pay grâce à leur carte.
Cette application est nécessaire car je peux faire mes paiements sans trop de difficultés. C'est trop rapide. Je viens de payer quelques litres d'essence avec l'argent qui est dans ma carte.
Faisal compte offrir ce service au-delà des frontières congolaises. Et pourquoi pas sur tous les continents africains.
Dans les jours à venir, actuellement, nous sommes en train de finaliser avec les partenariats. Nous avons, là je vois, Visa au niveau international, avec plus de 30 pays qui seront déjà connectés dans notre corridor, le système de paiement. Et à part Visa, nous avons MFS Africa. Avec MFS Africa, nous serons dans 34 pays de l'Afrique.
Cette application a été lancée en août dernier. Jusqu'ici, ce jeune homme travaille sans grand soutien des autorités, une situation que vivent de nombreux entrepreneurs en RDC. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La voie aérienne pourrait bientôt être une solution aux embouteillages monstres sur les autoroutes ici aux États-Unis. Une correspondance de Gina Dulot depuis Los Angeles sur des projets visant à mettre en service des taxis volants avant les Jeux Olympiques de 2028. Le récit est de Idriss Fall.
La traversée du désert est un essai pour une version grandeur nature d'un système de propulsion que la société Over Air de Californie du Sud prévoit d'utiliser pour des taxis volants électriques. Les ingénieurs de l'entreprise travaillent sur un eVTOL, c'est-à-dire un véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux doté de rotors de 6 mètres et des derniers développements en matière de moteurs électriques et de batteries pour aider à transporter les passagers au-dessus des routes bondées. John Crisis, chef des opérations de mobilité d'Over Air.
Cet avion, avec son rayon d'action de 222 km ou un peu plus, peut essentiellement desservir la grande région de Los Angeles. Il peut transporter des bagages et 5 passagers. Nous pensons que ce sera formidable pour les familles qui essaient d'attraper un vol long courrier. Cela va vraiment changer la façon dont les gens se déplacent en zone urbaine.
Les responsables de la ville soulignent que cette promesse de mobilité aérienne vient aussi avec de nombreuses questions non encore résolues sur l'infrastructure pour ces futurs taxis volants et la surveillance par la FAA, l'administration fédérale de l'aviation. Connie Yanos, du département des transports de LA.
De toute évidence, la FAA va avoir un rôle énorme à jouer. Et c'est elle qui réfléchit et envisage de fournir des autorisations pour ce processus dès 2025. Et puis au niveau local, nous avons vraiment des pouvoirs d'utilisation des endroits où les gens peuvent décoller et atterrir. Et je pense que l'autre valeur ajoutée que les villes apportent est cette perspective très locale sur la façon dont cela va avoir un impact sur les gens.
Mais certains habitants de Los Angeles sont sceptiques. Guedilia Sorch, résidente de LA.
Pensez à tous ces points d'atterrissage. Cela ressemble à un chaos qui va se produire. Vous aurez besoin de zones entières d'où les gens partent et atterrissent. Vous ne pourrez pas atterrir n'importe où. On a l'impression que l'on va s'écraser tout le temps.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, Abdourahmane Dia. Merci à toute l'équipe de production. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.